Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence Phileas Asset Management. Je laisse à présent la parole à messieurs Cyril Bertrand et Ludovic Labal. Messieurs, c'est à vous.
Merci. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette traditionnelle conférence téléphonique. Alors, en termes de plan, on va suivre comme d'habitude une analyse de la performance et des contributions depuis le début de l'année. On parlera des idées clés qu'il y a dans le portefeuille. Puis on finira par un nouveau chapitre qui est en fait le détail de notre approche ESG qu'on a implanté vraiment cette année. Alors sur le slide numéro 3, la performance depuis le début de l'année de Phileas Long Short, on est légèrement négatif, on est à moins 0,2% depuis le début de l'année, ce qui porte la performance annualisée depuis la création à 1,68%. On va revenir en détail hein, sur la performance depuis le début de l'année. La volatilité sur un an est à 5% contre 3,5% depuis la création. Donc on voit qu'on a un régime de volatilité beaucoup plus élevé cette année que ce qu'on avait d'habitude. Donc ça se reflète logiquement dans la vol du fonds. L'objectif, c'est de garder une fourchette entre 3 et 5% de volatilité. Voilà, la volatilité va logiquement rebaisser avec un marché un peu moins volatile en ce moment. Le bêta du fonds face au marché est toujours à 0,0. Ça, c'est une caractéristique depuis le lancement du fonds. Et ça ne bouge pas sur un an glissant. On a toujours un comportement qui est extrêmement neutre vis-à-vis du marché. Ça, c'est vraiment une constante de notre fonds. Sur le slide suivant, on revient sur l'analyse de la performance en trois phases depuis le début de l'année du long short pour bien comprendre comment ça se joue depuis le début de l'année. Une première phase de janvier à mars, où on a gagné 1,4% dans un contexte de marché qui était compliqué, puisque disloqué par l'apparition du coronavirus. Ça, c'est une caractéristique de notre fonds, hein, qui est en général de plutôt bien se comporter dans les phases difficiles de marché. On a toujours gagné de l'argent dans les phases de baisse, parce qu'on a une vraie neutralité d'une part, et d'autre part, plutôt un biais orienté qualité qui nous aide dans ce genre de phase. Le stock picking était plutôt bon également en début d'année. D'avril à octobre, on a une performance à peu près étale, avec une configuration assez différente, hein, puisqu'on a eu un fort rebond du marché et surtout un rebond du segment cyclique face au segment défensif, hein, jusqu'à fin octobre. Les cycliques ont quasiment tout repris face aux défensives, ce qui est une configuration assez défavorable pour la structure de notre portefeuille habituellement. Sur ce genre de rotation, en général, on fait des drawdowns assez significatifs, historiquement en tout cas. Cette année, on est étale dans une configuration qui nous est très défavorable, puisque le stock picking était plutôt bon, et on s'est mieux neutralisé que par le passé, je pense, sur cette rotation en fait de la poche cyclique face à la poche défensive. Ça, c'est grâce à notre outil de gestion des risques où on analyse bien nos facteurs de façon plus précise que dans le passé. Et donc, ça, je pense que ça nous a quand même aidé à mieux résister que dans le passé dans ce genre de configuration. Et puis sur novembre, on a perdu 1,5% avec une très forte rotation déclenchée par les résultats du vaccin, hein, de Pfizer. Donc on a observé une très forte rotation qualité value, pénalisant notre portefeuille, puisque on s'était bien hedgé sur le facteur Covid, enfin à peu près hedgé sur le facteur Covid, mais en revanche, on avait un résidu qualité value qui était présent dans le portefeuille. Et là, la rotation était trop forte et trop courte pour ajuster le portefeuille rapidement. Et donc ça c'est l'essentiel de la baisse sur le mois de novembre. Après, sur la partie longue, on avait des valeurs qui avaient profité de la pandémie, qui ont souffert, qui ont baissé dans la hausse du marché, ça aide pas. Et ça a été partiellement compensé quand même par des valeurs en ayant souffert, qu'on avait aussi en long. Hein, donc c'est pour ça on avait quand même bien identifié ce facteur vaccin. Sur la partie des valeurs les plus impactées par ce phénomène, on avait rentré du Compass, du Amadeus ou du MTU qui ont bien monté sur l'annonce. Mais au global, ce qu'on a peut-être sous-estimé là-dessus, c'est vraiment d'un point de vue plus large la rotation qualité-value. La réaction qu'on a en général dans ce genre de drawdown et sur ce genre d'événement, c'est qu'on rééquilibre quand même sur la journée, c'est ce qu'on a fait, le portefeuille avec de nouvelles idées. Et aussi le maintien de nos principales convictions, parce qu'on a des valeurs qui ont baissé depuis l'annonce du vaccin, qui aujourd'hui ont un potentiel de rebond et de hausse qui nous paraît très attractif, donc on les maintient évidemment dans le portefeuille, mais on a rentré de nouvelles idées pour équilibrer ce biais qualité-value, puisque effectivement l'arrivée d'un vaccin très efficace peut changer la donne de façon un peu plus durable sur ce genre de rotation. Il est intéressant de noter que sur la journée d'hier, qui était une journée à nouveau de rotation en faveur de la value face à la qualité, avec l'annonce du vaccin de Moderna, on a gagné de l'argent. On a gagné un peu d'argent, pas énormément, mais on est revenu légèrement positif à la clôture d'hier depuis le début de l'année, ce qui illustre bien l'ajustement qu'on a effectué et qui a l'air de fonctionner. Un mot sur la page suivante sur Phileas Equity Europe, hein, qui reprend donc la structure du portefeuille long du long short. Depuis le début de l'année, il surperforme son benchmark qui est le MSCI Europe d'environ 5 points. Et annualisé depuis la création, ça fait une surperformance de 1% par an du fonds face au benchmark. Sachant que c'est un fonds qui est concentré autour de 30 à 40 positions, avec un tracking error élevé, hein, qui est de l'ordre de 7% depuis la création. C'est le but du jeu, hein, essayer de se démarquer du benchmark pour afficher une surperformance qui fonctionne à peu près jusqu'à présent. Voilà, je vais passer la parole à Ludovic qui va revenir sur les contributions depuis le début de l'année.
Bonjour. Donc sur les contributions, comme d'habitude, on vous a fait figurer avec pas mal de granularité les contributions individuelles et sectorielles à la performance year-to-date. Je ne vais pas revenir en détail sur chaque sous-portefeuille. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, on a 7 sous-portefeuilles sur 12 qui ont été positifs, 5 qui ont été négatifs, avec donc effectivement une rotation récente qui a globalement été négative, mais un stock picking sur l'année qui a été plutôt positif, avec des bons succès sur la partie longue des titres qui individuellement en brut nous rapportent plus de 60 BP. Il y a HelloFresh, qui a baissé récemment, mais qui nous avait comme bien fait gagner avant. Ingenico, c'est Ingenico slash Worldline, hein, parce que maintenant c'est la même société. Rockpool dans la construction, qui a très bien fonctionné, sur laquelle on a pris nos bénéfices. Brenntag dans l'industrie, c'est un distributeur de produits chimiques qui a très très bien marché aussi, sur lequel on est toujours positionné. Vestas également dans les biens d'équipement qui a bien marché. Et puis Trigano dans l'automobile qui a très bien fonctionné, qui fonctionne très bien ce matin, ils ont publié des résultats canonissimes. Deux déceptions en stock picking quand même sur le portefeuille dans la partie longue. On en avait déjà parlé lors du dernier conference call, c'était Danone et Thales, ça c'était en début d'année, c'était au mois de janvier. Voilà, mauvaise idée, on a été pris à contre-pied, on s'est coupé à ce moment-là, mais ça a pénalisé la performance de chacun de ces deux sous-portefeuilles, donc Foodbev et Aero. Et puis en short, alors le marché a été volatile, a baissé, etc., mais globalement on a eu un bon alpha aussi. D'une part sur la première partie de l'année qu'on a évoquée de janvier à mars, où et la structure de notre portefeuille, globalement avec un petit biais de qualité, et surtout la structure de notre portefeuille short, qui est du short encore essentiellement single stock, même si on a un petit peu d'indice, qui en général produit un bon alpha dans les phases de stress de marché, ça sert à ça, c'est pour ça qu'on le fait. Donc là, un bon alpha notamment sur des valeurs qui ont été très attaquées par la pandémie dans cette phase-là, comme Unibail, dont on est sorti, et Rolls-Royce, dont on est sorti aussi. Là, on va passer aux idées clés sur la page d'après. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, donc suite à la rotation très forte qu'on a eue lundi, mardi de la semaine dernière, on a rééquilibré le petit biais qui était un mauvais biais vu un événement à plusieurs écarts types comme on a connu qualité value, donc en rajoutant ou en renforçant quelques dossiers un peu value comme Rexel, c'est une nouvelle position, Peugeot qu'on a renforcé, Saint-Gobain qu'on avait déjà, qu'on a renforcé un petit peu. On a renforcé aussi des valeurs qui avaient souffert du Covid, on en avait un peu en portefeuille, mais on les a renforcées pour rééquilibrer un peu ce facteur-là. Donc on a renforcé un petit peu MTU, renforcé un peu Bureau Veritas, on a acheté du Hélice et on a acheté du Wheatbread. Voilà, ce qui nous a permis de rééquilibrer le facteur Covid, qui va rester un facteur dans les mois et les trimestres qui viennent. Mais il convient à notre avis d'être plus équilibré. Et puis on a, comme vous l'avez dit, gardé nos convictions de dossiers qui ont ou pas bien fonctionné depuis le début de l'année, mais sur lesquels on a une forte conviction et sur lesquels on a de l'upside. Donc c'est le cas de Puma qu'on a depuis le début de l'année en portefeuille, Trigano qu'on garde même après ces bons chiffres, ça vaut au moins 10 fois les bits, ça nous semble vraiment très attractif. HelloFresh, sur lequel il y a eu des grosses prises de profit assez compréhensibles, mais qu'on garde aussi, on va en parler dans un instant, et puis Brenntag. Dans les shorts, là aussi de façon symétrique, on essaie d'être relativement équilibré, donc on a renforcé quelques bons de proxy très très chers. Un bon de proxy, c'est pas un mal en soi, hein, la direction des taux d'intérêt, bon, pas d'idée particulière là-dessus, tout ce qu'on peut dire c'est qu'ils sont bas, et ce qu'on peut dire des valeurs qui sont très corrélées à ça, c'est qu'elles, parfois elles sont très très chères, donc c'est le cas de Givaudan, Symrise, Sika, Coloplast ou Wolters Kluwer, qui sont des dossiers qu'on a renforcés dans la période récente. Et puis on garde évidemment en portefeuille des sociétés de qualité moyenne, voilà, qui sont des bons funding short, des sociétés qui ne sont pas destinées à faire grand-chose sur un cycle économique ou un cycle boursier, avec des valeurs comme H&M, on est toujours assez méfiant sur la distribution textile, CIE, ça c'est un équipementier automobile très exposé au powertrain, ou ISS, qui est en partie un concurrent de Sodexo, qui a des problèmes assez colossaux de contrat. Voilà, après si on fait un petit zoom sur certaines valeurs, dans l'aéronautique défense, par exemple, MTU, c'est une valeur qu'on a trimballée pour le coup sur toute la pandémie. On l'a acheté en mars au moment où ça commençait à barder. On a commencé par perdre. Puis après on a récupéré quand même pas mal. Mais c'est une affaire, c'est un concurrent de Safran, si vous voulez, mais qui est uniquement présent sur la propulsion, et c'est une affaire qui, avec un trafic aérien qui va être globalement à moins 60, moins 65% sur 2020, va arriver à afficher un free cash flow positif, quasiment 10% de marge opérationnelle. Voilà, donc ça nous paraît assez remarquable, et c'est le genre de dossier très très affecté par la pandémie, sur lequel on est vraiment bien payé pour attendre, quoi, parce que ça consomme pas de cash, et c'est vraiment pas très cher. Sur la construction, on est toujours positionné sur Saint-Gobain, on a renforcé un petit peu récemment. Saint-Gobain, enfin, on aime bien parce que c'est un profil qui est assez équilibré, effectivement. Ça reste un dossier value cyclique. Donc quand on veut de la value cyclique, c'est un bon candidat. Hein, pour ça, il n'y a rien de très, très nouveau là-dessus. Mais ça se paye toujours comme une value cyclique. Donc ça se paye 11 fois les résultats. Ça n'a pas rirété comme certaines boîtes de biens d'équipement qui se payent 20-25 fois les résultats aujourd'hui, ce qu'on a du mal à justifier. Là, on a une affaire cyclique de qualité correcte avec un PE qui reste sur ses niveaux historiques, qui n'a pas eu de re-rating. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un catalyseur pour un re-rating, qui est l'exposition de Saint-Gobain au marché de la rénovation d'une part et au marché de la rénovation énergétique. 50% du chiffre d'affaires, c'est de l'Europe, 50% c'est de la rénovation, avec des grosses positions sur évidemment la laine de verre et le vitrage. Et donc, c'est un bon candidat pour profiter des plans de relance européens centrés sur la rénovation verte, parce que les bâtiments, c'est 30% des émissions de CO2, c'est gigantesque, et Saint-Gobain, c'est le leader mondial là-dedans. Voilà.
Je vais prendre la parole sur HelloFresh dans la distribution alimentaire. HelloFresh, je ne sais pas si vous connaissez tous cette boîte, c'est une société qui vend des box repas par abonnement. Ce sont des recettes en fait à préparer, on reçoit les aliments bruts. Donc c'est une niche dans l'alimentaire, hein. C'est une nouvelle habitude de consommation qui se développe et c'est le leader mondial. Ils font 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une capitalisation boursière de plus de 6 milliards, donc c'est une grosse boîte. Et c'est le leader mondial, ils ont 50% de part de marché aux États-Unis. C'est une boîte qui croissait fort déjà avant la pandémie, hein, de l'ordre de 40% par an, donc avec cette nouvelle habitude qui se développe pas mal et qui disrupte un petit peu les habitudes alimentaires traditionnelles via le retail. Et évidemment, ils ont profité pas mal du confinement, puisque c'est de l'abonnement et de la livraison à domicile, donc ils sont sur des rythmes de croissance à 100%. On pense qu'évidemment, ce n'est pas soutenable. À partir du moment où on a un vaccin, ça va se normaliser. Mais on trouve que le marché a été trop sévère dans la baisse récente du titre, qui nous a bien rapporté depuis le début de l'année par ailleurs. Mais c'est vrai que sur les derniers jours, il y a eu une baisse assez significative, le marché considérant que le vaccin étant une mauvaise nouvelle pour eux. C'est vrai qu'on va normaliser la croissance, mais malgré tout, nous, en étant assez prudents sur nos hypothèses de normalisation, on a plus de 50% d'upside encore sur ce dossier, parce qu'on croit beaucoup au développement de cette niche de façon assez structurelle, long terme. Donc évidemment, on reste positionné sur HelloFresh. On peut également mentionner dans les idées Bureau Veritas, qui est une de nos grosses positions. Ça, c'est plutôt un dossier qui a souffert du confinement, hein, puisqu'il y a un certain nombre de services qui étaient disruptés. La normalisation de l'activité se fait plus vite que prévu, donc ça, c'est une bonne nouvelle. À court terme, on a un momentum qui est plutôt favorable. Un niveau de valorisation qui reste toujours selon nous, abordable, hein, c'est pas encore très cher. En plus, c'est une boîte de bonne qualité, donc qui mérite des multiples élevés. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est le développement d'une ligne, d'une division qu'ils appellent ESG, qui va adresser les besoins des corporates pour la certification de leur activité ESG. Bon, ça ne va pas être gigantesque à l'échelle du groupe, mais si ça rajoute un point de croissance organique, ça peut permettre un re-rating du titre qu'on espère. Donc on reste assez convaincu sur Bureau Veritas. Et puis on peut mentionner Sodexo. On avait du Compass, on a pris nos bénéfices sur Compass, on est revenu sur Sodexo. Qui nous paraît très en retard, tout simplement, hein, très affecté par le Covid, très affecté par la pandémie, mais on oublie que Sodexo, ce n'est pas que de la restauration d'entreprise, ils ont également de la restauration dans les hôpitaux qui continuent à fonctionner, la restauration dans les écoles qui fonctionne à peu près, et donc voilà, il nous semble que le marché a été un peu sévère sur Sodexo, et on joue une normalisation tout simplement de l'activité, et le vaccin est une bonne nouvelle évidemment pour ce dossier.
Voilà, et sur les shorts, donc comme je vous l'exposais, on garde des shorts sur des boîtes de qualité moyenne avec des fondamentaux un peu challengés, donc la distribution textile, effectivement, c'est toujours là. Un H&M, ça se paye 25 fois les résultats pour une boîte qui, globalement, aura du mal quand même à faire progresser ses ventes à magasins comparables, qui ferment des boutiques, donc ça se paye quasiment sur un multiple de sociétés de croissance, alors que ça nous paraît être une gentille rente déclinante qui a connu certes une recovery opérationnelle, mais qui est sur un segment qui est quand même vraiment très attaqué. CIE, ou on peut mettre Schaeffler dans la même catégorie, là aussi c'est un trend un petit peu long, il y a une vraie rupture technologique dans l'automobile, et quand l'essentiel de votre business est sur le moteur à combustion, dont on a connu le pic, en fait, le pic en volume des moteurs à combustion, c'était il y a 2 ans. Voilà. Et on ne reviendra plus jamais à ces niveaux-là, donc on pense que ça va être un segment un petit peu difficile, même pour des opérateurs qui sont de bonne qualité, mais sur un segment qui est voué à s'effondrer. Et puis on a renforcé ou mis des nouvelles valeurs qui ont des caractéristiques de bons de proxy et qui ont connu des re-ratings assez fous, quoi, depuis... en fait, ça a commencé en 2018-2019. Mais des boîtes comme Givaudan ou Symrise, donc c'est des arômes, leurs clients c'est des arômes et des parfums, donc les clients c'est L'Oréal et Nestlé et Unilever, quoi, pour schématiser, donc ça croît à peu près comme ses clients, ce qui est plutôt agréable parce que c'est de la croissance relativement défensive, ce qu'adore le marché. Il n'y a pas de marque, hein, c'est des chimistes, donc le brand name c'est pas leur marque, mais bien que n'ayant pas cette brand value, c'est des boîtes qui ont connu un rating absolument dingue. Ça se payait, j'ai vu dans Simrise, 20 fois les bits en gros jusqu'en 2017. Et aujourd'hui, ça vaut 32 fois les bits. Donc un rating de plus de 50%, c'est encore plus cher que L'Oréal, qui est déjà cher. Ça nous paraît pas très dangereux, en fait, à ces niveaux-là. Sika, c'est une valeur dont on était long, Sika. On en a eu même cette année, on les a achetés en bas au mois d'avril. Et on les a revendus il n'y a pas très longtemps, quelques semaines. C'est magnifique aussi, Sika. Hein. C'est un chimiste également. C'est des additifs sur les marchés de la construction. Ça se payait sur un PE de 20 jusqu'en 2017. Et aujourd'hui, sur l'année prochaine, sur des résultats normalisés, ça se paye sur un PE de 37. Voilà. Là, pour le coup, c'est plus cher que ça. Ils font du mortier. Donc ça me paraît quand même assez fou ça, assez fou comme multiple. Donc en face de Saint-Gobain, bon voilà, on a un spread de valo qui est absolument gigantesque. Voilà, tout ça fait un portefeuille qui est assez équilibré avec une exposition qualité et value qui est net longue de quelques pourcents chacune. Voilà, donc un profil beaucoup plus équilibré.
Voilà, on va passer à l'approche ESG sur la partie 4, slide 9. C'est vrai que cette année, depuis le début de l'année, on a vraiment intégré une approche ESG de façon assez volontariste. Ça part d'une observation, hein, c'est que aujourd'hui, pour nous, l'ESG est incontournable, déjà pour comprendre notre environnement et pour comprendre les risques et les opportunités qui nous entourent. On a besoin d'intégrer l'ESG dans l'analyse. On voit que l'ESG déclenche des réglementations nouvelles, des comportements de consommateurs nouveaux, que ça structure les flux dans le marché. Donc il y a beaucoup de choses à comprendre dans l'ESG et on s'y est vraiment mis. On s'est d'ailleurs formé à la formation de l'EFAS, hein, qui est la SFAF européenne. C'est la formation du Certified ESG Analyst, donc pour bien intégrer toutes ces dimensions et ces enjeux. Et aujourd'hui, il nous semble qu'on est à même d'intégrer ces thèmes et ces enjeux dans notre analyse. Donc c'est ce qu'on s'est évertué à faire depuis le début de l'année, l'idée étant de pouvoir concilier l'ESG et la génération d'alpha en s'exposant à des belles opportunités potentiellement issues de l'ESG et en évitant aussi des risques. Donc on va revenir un peu en détail sur les piliers de notre intégration ESG.
Voilà, donc assez classiquement, on a organisé notre démarche autour de trois piliers. Le premier pilier qui est assez standard, c'est une liste d'exclusion. Alors nous, on a une caractéristique commune avec Norges Bank, hein, qui est qu'on s'intéresse beaucoup à l'ESG. Et en revanche, on a quelque chose de très différent, c'est qu'on est tout petit et eux sont absolument gigantesques. Norges Bank, c'est le fonds de pension norvégien. C'est colossal. Ils détiennent en moyenne 0,5% de tout ce qui est coté dans le monde. Enfin, leurs actifs, ça représente ça. Et ils ont un focus ESG très fort, qui fait qu'ils ont des moyens assez colossaux à déployer et que depuis des années, ils ont une liste d'exclusion qui est assez sophistiquée, qui est assez mobile et qui nous paraît être un bon point de départ. Donc c'est le point de départ qu'on a retenu en excluant certains produits qu'on excluait déjà en réalité pour la plupart. Donc le tabac, ça fait des années qu'on n'en fait plus pour ces raisons-là. La production de charbon et d'énergie à base de charbon, c'est la même chose. Ce qui a un petit peu changé, c'est sur la défense, où il y a certaines valeurs qui sont dans cette liste d'exclusion et qui sont exposées aux armes nucléaires. C'est dans la liste d'exclusion de Norges, voilà, donc on ne les fait pas, mais c'est pas un déchirement, ça enlève pas énormément de valeur. Et puis Norges a une approche qui est très mobile effectivement sur les comportements à risque d'un point de vue ESG, avec une watchlist qui est mouvante. Et quand un risque ESG apparaît trop fort, la valeur est sur une liste d'exclusion le temps que la controverse soit levée. Voilà, donc ça c'est le premier pilier. Le deuxième qui est le plus important évidemment, c'est notre analyse interne. Alors on a vu tout le monde, hein. On a vu toutes les bases de données existantes sur l'ESG pour se faire notre religion. Et notre conclusion c'était que c'était quand même bien d'avoir notre propre outil. Donc on s'est formé, effectivement, on est retourné à l'école, on a travaillé et on a basé notre analyse à ce jour sur 6 drivers ESG. On pourra en prendre plein. L'ESG, c'est complexe parce que c'est à la fois un peu quantitatif, enfin, c'est surtout ce que voudraient vendre les bases de données, quoi, en expliquant ce qu'ils comptent et qu'on peut réduire ça à une note, mais beaucoup qualitatif. Voilà. Et comme c'est un peu quantitatif et beaucoup qualitatif, c'est vraiment multifactoriel et pas facile à analyser. Donc on a essayé de concentrer notre analyse sur ce qui nous semblait être le plus pertinent d'un point de vue création de valeur actionnariale, donc le plus actionnable et le plus réconciliable avec l'alpha dans le portefeuille. Donc on s'est basé sur l'environnement, sur la décarbonation. Décarbonation, bon, ça c'est assez tarte à la crème, c'est assez classique dans toutes les bases ESG, avec un focus sur tout ce qui est émissions de scope 1, scope 2, scope 3, classiquement, et puis un gros focus sur l'impact produit et la capacité de l'entreprise à avoir ou pas des produits qui permettent de participer à un monde un peu plus décarboné. Et là, on voit que l'analyse n'est pas toujours très bien faite par les bases de données. Saint-Gobain, dont on parlait tout à l'heure, a une note assez moyenne sur l'aspect E chez Sustainalytics, par exemple, alors que bon, bah, c'est le leader mondial de l'isolation, quoi. Il y a un bénéficiaire du plan de relance assez majeur, à notre avis. Voilà, on est un peu surpris par cette note, on préfère avoir la nôtre que la leur. Pollution et déchets, là, c'est assez classique, en l'occurrence. Là, on ajoute un peu de valeur en essayant de comprendre ce qu'il y a dedans sans prendre la note de la base, mais c'est assez standard. Sur l'aspect social, capital humain pour nous, c'est la capacité de l'entreprise à faire deux choses. Un, à avoir des bonnes relations avec ses salariés. Voilà. L'entreprise, c'est un ensemble de personnes qui se regroupent pour entreprendre, donc c'est important que ça soit relativement fluide. Et la deuxième chose qui est vraiment vital pour certains secteurs comme les services, qui est un très gros secteur chez nous, c'est l'attractivité de la société, sa capacité à attirer des talents. Et là, ça dépend de plein de choses, c'est un peu magique, voilà. Enfin, ça dépend un peu de votre secteur d'activité, mais ça dépend beaucoup du leadership, quoi. et de votre exécution et du caractère aspirationnel que vous pouvez avoir pour des talents. Et quand on regarde, je sais pas, les médias par exemple, on est long d'une société qui s'appelle S4 Capital, qui est au départ une coquille, qui a été reprise par Martin Sorel quand il a été débarqué de WPP. Et c'est que du marketing digital. Donc c'est tout ce qu'on veut dans la pub. Enfin, c'est le seul segment qui marche dans la pub. Et c'est une société qui a une très forte attractivité. Et pour des cibles qui rachètent en M&A, et pour des talents qui la rejoignent. Et ils attrapent plein de budgets de plus de 20 millions, voilà, alors que la boîte était toute petite il y a encore quelques années. Et à ce titre, pour un ingénieur qui veut travailler dans le digital marketing, c'est sans doute une société qui est plus attractive que TF1, quoi. Voilà. Donc on préfère travailler normalement plus pour Martin Sorel que pour Martin Bouygues. Le capital sociétal, c'est très important et c'est de plus en plus important parce que, comme on le disait, les flux sont de plus en plus structurés autour de ces thèmes ESG, et le capital sociétal, ça peut vraiment faire naître des controverses qui peuvent être terribles. Donc on a eu un exemple récent avec Boohoo, qui est un distributeur textile au Royaume-Uni, qui a été pris dans une controverse qui était déjà ancienne en fait, il y avait déjà eu des articles dans le FT il y a 2-3 ans, je me rappelle, sur les conditions de travail dans leurs ateliers, à outsourcer évidemment, dans leurs ateliers au Royaume-Uni, conditions de travail qui étaient un peu daté, disons, et des conditions sanitaires qui étaient, semble-t-il, pas respectées. Et sur cette nouvelle-là, qui aurait fait baisser le titre de 2-3%, et ça avait été le cas il y a quelques années quand c'était arrivé, ça a baissé de 30%. Donc effectivement, c'était quand même assez matériel. Et effectivement, il y a plein de segments sur lesquels ces risques sont vraiment, je trouve, mal identifiés, sont des risques vraiment naissants, quoi. Et la distribution textile, de ce point de vue-là, c'est vraiment une catastrophe. Enfin, on peut prendre le truc dans tous les sens, mais c'est assez complexe. Et puis l'impact produit, on ne fait pas de tabac, effectivement, voilà. Une industrie qui tue un consommateur sur deux, c'est pas évident. Mais on est très vigilant sur les passifs qui peuvent naître de controverses produits. Donc, je sais pas, Imerys, par exemple, il y a eu un litige dans le talc, on a vraiment gardé le dossier 15 fois et on s'est dit c'est pas possible d'investir là-dedans parce que voilà, un passif qui peut vous faire un gros morceau de l'equity value, c'est quand même quelque chose qu'on peut pas hedger. Et puis le dernier aspect, c'est la gouvernance. Alors là, c'est la gouvernance, c'est intéressant parce que c'est ce que les bases voudraient présenter comme le plus quantitatif et le plus facile, quoi, quelque part, parce que les bonnes pratiques, elles sont bien documentées, il y a l'OCDE qui documente ça depuis les années 90, l'ICGN, etc. Et donc c'est assez facile de mettre les bonnes croix dans les bonnes cases, et les entreprises en général suivent quand même les codes de bonne gouvernance, quoi. Donc à peu près parité homme-femme, parité indépendant-non-indépendant, des comités de rémunération, de nomination, des comités d'ESG parfois, etc. Mais pour nous, la gouvernance, ça s'éprouve vraiment dans le temps, et ça s'éprouve dans les chocs, quoi. Dans les chocs externes, voilà, quand une entreprise a un gros problème, comment la gouvernance fonctionne, puis surtout dans les chocs internes, quoi. Quand l'entreprise fait une bêtise, enfin, quand le management fait une bêtise, et ça arrive de faire des bêtises, comment marche la gouvernance. Et c'est en observant ça qu'on se retrouve finalement avec des notes qui sont souvent assez différentes quand même de ce qui est proposé dans les bases. Je prends deux exemples. Le Unibail, par exemple, a une très bonne note en gouvernance chez MSCI et chez Sustainalytics, parce qu'effectivement, ils cochent toutes les cases. Voilà, la case qu'ils ont quand même assez mal cochée, c'est qu'ils ont fait une acquisition en haut de cycle à un prix assez stratosphérique. Donc c'était Westfield aux États-Unis et au Royaume-Uni. Un peu la folie des grandeurs, quoi. Comme ils sont devenus plus gros, le management s'est augmenté sa rémunération de 45% pour se féliciter d'être plus gros. Et puis après, bah, la valeur s'est effondrée parce que voilà, c'était une très mauvaise acquisition, trop leveragée, à un très mauvais moment sur des actifs qui étaient déjà en très forte perte de vitesse, quoi. Voilà. Et tout en bas, gentiment, le management a proposé une augmentation de capital très 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 dilutive. Bon, en l'occurrence, les proxy advisors ont tous recommandé l'augmentation de capital, mais elle n'a pas été acceptée par les actionnaires. Donc voilà, on voit bien que la gouvernance est quand même une affaire d'analyse propriétaire. Et Lagardère, alors Lagardère, c'est presque une blague, parce qu'effectivement, enfin, en notoriété spontanée, je pense qu'il n'y a pas une boîte en Europe qui a une gouvernance plus critiquable que Lagardère. C'est une commandite, voilà, un actionnaire qui a un tout petit bout du capital et qui considère l'entreprise comme étant la sienne. Et pourtant, il y a une bonne note de gouvernance. Voilà, un truc assez bizarre parce que ce critère-là n'est pas tellement pondéré finalement chez Sustainalytics. Voilà, donc on fait notre travail nous-mêmes. Et ça nous permet, je pense, d'avoir des meilleures conclusions souvent. Et puis, le dernier pilier, et c'est vrai que c'est le problème de l'analyse interne, nous on préfère, parce que c'est notre analyse, on la comprend bien, c'est qu'elle est, un, elle n'est pas auditable, enfin, difficilement, on va toujours trouver que notre analyse interne est très bonne, c'est vrai sur l'analyse financière, sur nos longs, on va toujours trouver de l'upside, sinon on n'en aurait pas, et sur nos notes ESG, bon, voilà, ouais, elles sont ce qu'elles sont, et on les adopte. Donc ça permet de donner un petit peu d'objectivité et ça permet de donner un petit peu de reporting à nos clients qu'ils souhaiteraient. Donc on travaille depuis longtemps avec Vigeo qui audite nos portefeuilles deux fois par an, qui donne une note, qui est la note de Vigeo, qui n'est pas la nôtre, qui est pas la nôtre sur les portefeuilles. Voilà, et puis le dernier slide, c'est sur l'approche ESG de la société, même si on est une petite société avec des petits moyens, on a quand même des ambitions. Donc la première, qui est assez logique, enfin c'est assez standard, c'est d'adhérer au UNPRI, qui est un peu la moindre des choses quand on entre dans une démarche ESG, c'est juste acter du fait qu'on entre dans une démarche ESG. La deuxième chose, c'est un engagement de philanthropie à partir de l'année 2020, on va reverser chaque année 3% de notre résultat net à une ou plusieurs associations, avec un engagement des salariés. Associations qui seront sélectionnées sur deux axes. Le premier qu'on a retenu, c'est l'éducation et la réinsertion. Voilà, on est sensible à ça. Et la deuxième, c'est des actions à caractère social et solidaire. Et puis la dernière chose, c'est l'engagement à la politique de vote. Donc l'engagement, on le fait beaucoup sur évidemment les aspects financiers. On avait commencé à le faire sur les aspects extra-financiers avec HelloFresh notamment, par exemple. Dans la période récente, on a eu pas mal d'échanges. Et la politique de vote va être systématique à partir de cette année, systématique et active. Donc non seulement on va voter, mais on va voter nous-mêmes. Donc on ne va pas déléguer notre vote à ISS ou à Proxinvest.
Voilà, donc on a fini pour cette présentation, un peu plus longue que d'habitude avec cette partie ESG. Voilà, je vais peut-être laisser la parole à l'opératrice pour d'éventuelles questions.
Merci, mesdames et messieurs. Si vous souhaitez poser une question, veuillez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Il n'y a pas de questions pour le moment, mesdames et messieurs. Pour rappel, si vous souhaitez poser une question, veuillez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Messieurs, il n'y a pas de questions par téléphone.
Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on reste à votre disposition. Vous pouvez nous rappeler suite à cette conférence pour engager le dialogue sur ces différents sujets. Et puis, on vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Merci, mesdames et messieurs. La conférence est maintenant terminée. Merci à tous pour votre participation. Vous pouvez à présent vous déconnecter.